Radio Okapi.
Le journal Blaise Shindani Kambala.
Le roi des Belges Philippe et son épouse la reine Mathilde ont quitté le sol belge ce mardi matin pour une visite officielle de 6 jours en RDC. À cette occasion, quelques Congolais de Belgique ont réagi sur ce que peuvent être les enjeux de cette visite royale. Vous allez suivre les réactions des uns et des autres dans ce journal. La nouvelle société civile congolaise s'est dit déçue du changement opéré à la tête de l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Pour Albert Ngalamouloumé, son président, la population se sent abandonnée et continue à souffrir face à cette Assemblée provinciale qui n'arrive pas à s'intéresser à ses problèmes. L'invité de ce journal, c'est Joseph Mukundi. Il est de la protection civile du Nord Kivu. Il alerte la population sur la consommation des poissons ramassés sur le lac Kivu, à Minova notamment. Pour lui, jusque-là, les causes de ces phénomènes ne sont pas encore élucidées. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal Parlé. Le roi des Belges, Philippe, et son épouse, la reine Mathilde, ont quitté le sol belge ce mardi matin. Leur avion doit atterrir en début de cet après-midi à l'aéroport international d'Njili à Kinshasa, selon le programme officiel rendu public par la présidence de la République. Le couple royal accompagné du premier ministre, du ministre de la coopération ainsi que du secrétaire d'État chargé de la politique scientifique viennent en RDC pour une visite officielle de 6 jours. À cette occasion, quelques Congolais de Belgique ont réagi sur ce que peuvent être les enjeux de cette visite royale. Si certains saluent cette arrivée qui marque le réchauffement de relations diplomatiques entre les deux pays, d'autres par contre sont d'avis que la présence du souverain belge ne changera rien au problème des Congolais. Les avis des uns et des autres dans ces condensés préparés par Cynthia Bachizina Bizana.
Il est très positif que le souverain belge vienne en RDC et surtout du fait que le roi Philippe, en tout cas, a profondément regretté le passé colonial et nous sommes vraiment dans une discussion pour aller vers des réparations.
Le lien entre les deux pays n'a pas su vraiment tenir à travers les années. Ayant personnellement été dans plusieurs autres pays d'Afrique, à mes yeux, il n'y a pas un impact ou bien, disons, une incidence ultra forte, étant donné que les seuls restes de la colonisation, c'est peut-être les noms des avenues ou bien alors certains anciennes familles qui ont encore des business. Après, ça peut aider pour donc les sujets qu'ils veulent développer entre les deux pays, donc la restitution des œuvres d'art.
Pour éviter les écueils du passé, ce serait aussi de pouvoir respecter le Congolais et d'avoir avec lui et d'avoir entre nous des relations complètement décomplexées. Donc on entend encore des gens parler de la Belgique comme la Belgique des Noko.
C'est toujours bien que deux États entretiennent de bonnes relations diplomatiques, mais après, la situation du Congo, les problèmes du Congo ne seront pas réglés par cette visite. Les autorités congolaises sont censées gérer les problèmes du Congo.
Vous le savez, à l'occasion de cette visite royale, Radio Okapi a entamé une série de productions sur les relations bilatérales entre les deux pays. La RDC est le premier pays partenaire de la coopération gouvernementale belge. Mais alors, Cynthia Bachizina Bizana, quels sont les différents aspects de cette coopération?
Le programme de coopération belgo-congolais intervient principalement dans le domaine de l'agriculture et développement durable, l'éducation, la santé, l'eau et d'autres programmes tiers. Selon le ministère de la coopération belge, cette année, le montant total de l'aide publique au développement belge dédié à la RDC tourne autour de 100 millions de dollars américains. En ce qui concerne les relations bilatérales entre les défenses de deux pays, des accords de coopération militaire ont repris en 2019 après leur gel en 2017. C'est ainsi que cette année, 25 militaires belges ont été envoyés à Kindu. Sur place, ils assurent le recyclage des instructeurs congolais de la 31e brigade terrestre des unités de réaction rapide des FRDC. C'est sur notamment les techniques d'orientation, de l'assistance médicale d'urgence sur le terrain et des techniques de détection et de neutralisation des engins explosifs improvisés. Par contre, les liens commerciaux entre les deux pays ont décliné au fil des années. En 2021, le Congo n'était que le 61e client de la Belgique et son 101e fournisseur, selon les chiffres de l'agence belge pour le commerce extérieur.
Autre chose, en Ituri, au moins 10 personnes sont tuées et 5 autres blessées la nuit de lundi à ce mardi par des présumés assaillants de la Codeco au camp des pêches de Roé dans le territoire de Djougou. Cette nouvelle attaque de la Codeco intervient 2 jours seulement après la signature par ce groupe armé d'un acte d'engagement de cessation définitive des hostilités. Le leadership de cette milice réitère toutefois son engagement au processus de paix et attribue cette attaque à des bandits non identifiés. Martial Kizia Biamongo.
Des hommes armés identifiés aux assaillants de la Codeco se sont introduits lundi vers 21h au camp de pêche des Rô dans les groupements Los Antrema. Selon des sources concordantes, ces bandits qui chantaient à langue locale ont tiré des coups d'effet en direction de certains habitants qui s'apprêtaient à aller exercer leur activité de pêche. Les chefs de cette entité parlent de 7 corps de personnes touchées par balles qui ont été découverts ce mardi matin. D'autres corps auraient été jetés dans les eaux de la Calbe, affirme des sources locales. Ces présumés Codeco ont par ailleurs blessé 5 autres personnes et détruit des pirogues de pêcheurs avant de se livrer au pillage des boutiques. Des sources proches de la Codeco indiquent que cette attaque n'engage pas leur mouvement qui a signé samedi dernier à Réti, dans les territoires de Djougou, un acte d'engagement de cessation des hostilités. Cependant, d'autres notables de la région craignent que les exactions de cette milice se poursuivent si le gouvernement n'accélère pas les programmes de DDRCS, Bounia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Pendant ces temps, au Nord Kivu, les combats entre les FARDC et les M23, repris hier lundi dans les territoires de Rutshuru, se sont intensifiés ce mardi. C'est dans le groupement de Djomba, plus de 70 km au nord-est de Goma, vers la frontière de l'Ouganda. Selon plusieurs sources, ces combats se dérouleraient sur l'axe Sabinion, toujours en groupement de Djomba. Le porte-parole du gouverneur de province parle d'au moins 2 militaires tués et 5 autres blessés lors de l'attaque de la position de FARDC hier lundi par le rebelle du M23 à Bougoussa. Denis Lukeso pour plus de détails.
Des tirs à l'arme lourde et des bombes se font encore entendre depuis la matinée de ce mardi vers la colline de Runyoni, précisément à la rivière Kamera. Sous les pieds de cette colline témoignent les habitants. Les porte-parole du M23 parlent de l'intensification des combats entre les FARDC et les M23 dans la région de Djomba. Ils déclarent que les M23 n'a jamais quitté Runyoni et Tchanzu en dépit des bombardements engagés par l'armée. Major Ngoma annonce l'intention de son mouvement de poursuivre avec les affrontements. En revanche, du côté de l'armée, pas encore de communication pour le moment. Dans une communication officielle de l'armée lundi, le porte-parole du gouverneur du Nord Kivu a indiqué qu'au cours de l'attaque de la position de l'armée hier lundi, des obus des canons tirés par les M23 sont tombés aux alentours de la position FARDC de Bougoussa. Ils ont occasionné 2 morts et 5 blessés dans les rangs de FARDC. Le général Ekenge dénonce l'usage des canons à longue portée qui, selon lui, témoigne du soutien que les M23 bénéficierait de son allié naturel. Goma, Denis Lukeso, Radio Kapi.
Toujours au Nord Kivu, les acteurs de la société civile de Lubero alertent les autorités sur la présence depuis quelques jours de groupe Mai Mai à Biambouye et ses environs. C'est une localité du groupement Manzia dans la chefferie des Bassoua. Selon cette structure citoyenne, depuis une semaine, les combattants du groupe Mai Mai de l'Union des Patriotes pour la Libération du Congo sont installés dans les camps FARDC des Biambouye, dégarni quelques jours avant par l'armée. Il s'observe également une circulation des miliciens d'autres groupes Mai Mai autour du village des Massingi, précise notre source. Cette situation crée la psychose au sein des habitants qui craignent d'éventuels accrochages entre ces groupes armés. En réaction, l'administrateur du territoire de Lubero indique que le commandement du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord est déjà informé de cette question pour des dispositions nécessaires. Après la déchéance du président du bureau de l'Assemblée provinciale du Kasaï central, la nouvelle société civile congolaise s'est dit déçue de ces changements opérés en l'espace de 8 mois seulement. Dans une déclaration faite ce mardi à Radio Kapi, son coordonnateur provincial a déploré cette attitude des députés provinciaux qui se querellent alors qu'ils devaient réfléchir sur le développement de la province. Pour Albert Ngalamouloumé, la population se sent abandonnée et continue à souffrir face à cette assemblée provinciale qui n'arrive pas à s'intéresser à ses problèmes. Il est au micro de François Kadima Tshisekedi.
à l'issue de la plénière ou du vote, le président a été déçu par ses collègues députés provinciaux. Et comme sentiment, nous, la nouvelle société civile congolaise, nous avons un sentiment de déception totale. Nous ne pouvons pas croire qu'à l'ère où nous sommes, la province du Kasaï central, une province qui est aujourd'hui classée parmi les dernières provinces qui a besoin du développement, qui a besoin de l'unité, qui a besoin de la stabilité de ses institutions afin d'émerger, afin de développer, connaissent aujourd'hui ou subissent encore une fois de plus ce qu'elle a subi hier. Nous n'avons pas compris pourquoi les députés provinciaux, au lieu aujourd'hui de se concentrer sur les problèmes sérieux de la population, notamment les problèmes de l'eau, les problèmes d'électricité, les problèmes des routes, les problèmes des produits de première nécessité, les produits agricoles, ils connaissent aujourd'hui flambée.
Signalons que le président du bureau de l'Assemblée provinciale du Kasaï central n'a fait que 8 mois à la tête de cet organe délibérant. Il avait remplacé à ce poste Patrice Aimé Sesanga. Revenons à Kinshasa pour parler du bureau du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral CENSA, scellé sur décision de Paul Mbumba, gérant de l'immeuble appartenant à la Caisse nationale de la sécurité sociale. Cette information, vous l'avez suivie hier lundi matin sur les antennes de Radio Okapi. Grace Chunza, coordonnateur de l'ONG Impunité Zéro, dénonçait à cette occasion cette décision en demandant à la justice de se saisir de la question. En réaction, l'avocat de Paul Mbumba dénonce ses propos qui, selon lui, sont diffamatoires. Selon maître Laurent Ochumbe, le bureau qui a été fermé était plutôt occupé par Joseph Olengankoy à titre privé. Il n'appartenait donc pas au CENSA, donc les sièges se trouvent au Palais du Peuple et non sur l'avenue Lukusa. Maître Laurent Ochumbe, avocat de Paul Mbumba, est au micro de Pelé Kipelamondo.
Nous apportons un démenti formel. Le CENSA n'a aucun bureau sur l'avenue Lukusa parce que c'est M. Olengankoy qui est le cousin de M. Paul Mbumba qui a bénéficié à titre précaire pour une durée limitativement convenue d'un bureau qui lui servirait d'un bureau privé. Et que donc, le CENSA, vous le savez, a son siège au niveau de la salle de banquet du Palais du Peuple. Et donc, M. Olengankoy devrait, à la première demande formulée par le locataire des appartements qui est la société Sofelec, patronnée par mon client, à la première demande, devrait libérer le bureau. Et lorsqu'on lui a demandé par plusieurs sommations de pouvoir quitter, ce n'est que normal que le locataire des appartements qui paye régulièrement ses loyers auprès de sa bailleresse occupe ces appartements qu'il occupe chaque jour, notamment à changer les serrures qui étaient en défection. Alors, je ne vois pas comment M. Olengankoy et ses services peuvent impunément imputer des propos diffamatoires à mon client faisant état du fait qu'il les aurait déguerpis ou aurait scellé les sièges du CENSA. Et d'ailleurs, c'est une occasion à notre sens que l'IGF puisse enquêter sur la véritable destination des fonds de fonctionnement de cette institution qui revendique avoir ses bureaux officiels dans un appartement privé. C'est inadmissible de tels propos pour une institution qui se veut être une institution d'appui à la démocratie.
Dans la province du Kwilu, les habitants de la ville de Kikwit éprouvent d'énormes difficultés en ce qui concerne la conservation de leurs cadavres dans la morgue. À la base, le manque d'électricité fait que garder un corps à l'unique morgue que possède cette ville puisse coûter les yeux de la tête. La population qui en a marre tire la sonnette d'alarme. Situation que reconnaît le maire de la ville, Léonard Moutangou, qui propose une piste de solution. Le point avec Irène Boma.
Conserver un corps à la morgue de l'hôpital général de référence de Kikwit n'est pas réservé à n'importe quelle catégorie de personnes. Cela coûte tellement cher que généralement, les cadavres sont directement enterrés sans passer par la morgue. C'est ce que déplorent certains habitants de cette ville qui attribuent cet état des choses au manque d'électricité dans la ville.
Quand vous placez un corps, ça nage vers 400 000 par jour. Bon nombre d'habitants de Kikwit ne peuvent pas oser déposer leur corps là. Ce sont ceux qui ont des frères en Europe, ça et là, qui ont la facilité d'aller déposer le corps là.
Pour mettre un corps dans la morgue de Kikwit, il faut payer 100 dollars. Mais à côté, vous devrez payer 5 litres de carburant par heure pour faire fonctionner la morgue le nombre de jours que votre corps prendra. C'est les grands soucis.
Léonard Moutangou est le maire de la ville de Kikwit. Il confirme cette réalité et indique ce qui suit.
Nous, on essaye de contourner cette situation. Il y a de l'argent que la population avait cotisé. Quand on n'avait pas encore de morgue, on voulait acquérir une morgue. On veut utiliser cet argent pour acheter des groupes électrogènes qui consomment moins, mais on est bloqué par la société civile qui refuse qu'on aille retirer l'argent.
Signalons que cette morgue de Kikwit a été dotée à la population par un des politiciens du coin. Irène Boma, Bandundouville, Radio Okapi.
Sur Kivu, les poissons morts dans les eaux du golfe de Kabuno et Aminova ont été intoxiqués. L'idée de gaz carbonique, gaz méthane ou sulfure d'hydrogène reste à écarter parmi les causes de la mort de ces poissons. C'est ce qui ressort du rapport circonstanciel de l'OVG, Observatoire volcanologique de Goma, sur la mort de poissons signalés depuis vendredi 3 juin dans la soirée à Minova, dans le territoire de Calais. L'essentiel de ce rapport avec vous, Rachel Kessembangu.
Selon les analyses effectuées au laboratoire par l'OCC Goma, une équipe des LOVG a été dépêchée samedi 4 juin sur place. La conclusion est que la mortalité de ces poissons serait consécutive à une intoxication d'origine inconnue. Les produits toxiques en cause a été fortement dilué par les eaux du lac qu'il n'a pas été identifié au laboratoire. Après avoir interviewé la population et les autorités dans plusieurs villages, seules les agglomérations de Bwerimana et Minova ont été affectées par ce phénomène de mort des poissons. L'idée des gaz a donc été écartée parmi les causes de la mort de ces poissons, car s'il en était ainsi, même les personnes qui ramassaient les poissons pouvaient être affectées. Il reste donc à déterminer les produits qui ont réellement causé la mort de ces poissons en effectuant des investigations plus approfondies. Il faudra mener une enquête complémentaire sur terrain dans les meilleurs délais, cela en vue d'éliminer les hypothèses de la contamination par des produits nocifs jetés à partir de la cité de Minova, ainsi que des l'utilisation de certains produits pouvant entraîner la mort des poissons en masse. Bukavu, Rachel Kiesse, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Cameroun, les députés et sénateurs reprennent du service ce 7 juin 2022 à Yaoundé à l'occasion de l'ouverture de la deuxième session parlementaire de l'année. Une session qui intervient dans un environnement économique et social tendu, marqué par la flambée des prix dans les marchés. Elle sera aussi certainement le prétexte de l'adoption au cours du mois des travaux des parlementaires de l'adoption d'une loi des finances rectificative pour faire face aux défis du moment.
L'invité.
La protection civile du Nord Kivu alerte la population sur la consommation de poissons ramassés sur le lac Kivu à Minova notamment. Pour Joseph Makoumkoundi, jusque-là, les causes de ces phénomènes ne sont pas encore élucidées. En attendant, il invite la population à demeurer vigilante et à ne pas consommer un poisson qui présenterait des anomalies. Joseph Makoumkoundi est notre invité dans cet entretien avec Rosalie Zawadi.
Monsieur Joseph Makoumkoundi, bonjour.
Bonjour, madame.
Depuis quelques jours, on voit les poissons sur les eaux du lac Kivu, du côté de Minova, comme protection civile. Qu'est-ce qui expliquerait cette situation?
Il sera peut-être tôt pour moi de le dire, mais en ce que je sache, il y en a des facteurs qui peuvent influencer, dont nous devons investiguer. Peut-être on peut avoir la chaleur qui augmente dans la zone de poissons. Si cette chaleur augmente, on doit savoir pourquoi la chaleur a augmenté. On peut avoir, par exemple, un produit corrosif qu'on peut plonger dans les eaux qui étouffent le poisson, et les poissons peuvent manquer de l'oxygène habituel et ils peuvent chercher là où il y a l'oxygène. On peut également avoir une sursaturation des poissons. Les poissons ont une quantité importante, ils peuvent migrer vers la surface. Mais également, on peut avoir la carence alimentaire des aliments habituels, des algues habituelles que consomment les poissons à l'intérieur où ils sont. Et en cherchant la nourriture, ils montent à eau. Et donc, ces paramètres peuvent amener à ce que les poissons se retrouvent à eau. Ce sont des éléments que l'OVG doit nous amener. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les poissons peuvent être sur les eaux? Deuxièmement, que les chercheurs peuvent nous amener notamment à la santé, l'OCC et la division de l'environnement et de la pêche. Est-ce que ces poissons que nous allons consommer sont de bonne qualité? C'est-à-dire prélever des échantillons également des poissons, les examiner et tirer rapidement une conclusion pour qu'on donne un conseil durable aux communautés.
Et les poissons qu'on voit sur les eaux, ils sont tous vivants ou ils sont morts?
Cette information-là, quand elle nous arrive à double vitesse. Il y a ceux qui disent que les poissons sont vivants, il y a ceux qui disent que les poissons sont morts. Dans les deux types de formations, nous allons nous poser la question, quelles sont les qualités des beaux poissons frais? Si déjà, à partir de cette information, une maman qui va au marché ou une vendeuse qui a vu quelqu'un qui lui amène un nombre important de poissons peut se poser ces questions-là et vérifier ces informations. Ça peut les permettre à bien éclairer les qualités des beaux poissons frais. D'abord, sa couleur. La couleur du poisson doit être brillante et son odeur doit être agréable. Le poisson n'a jamais eu d'odeur nauséabonde. La couleur, elle est brillante, vous voyez que le poisson brille très bien. Sa peau est luisante, c'est comme s'il y a de l'huile sur la peau des beaux poissons. Et c'est glissant. Quand vous trouvez le poisson, vous le tenez, il est glissant. Il ne se fixe pas dans la main de la personne qui tient. Ses yeux sont foncés. Ses yeux ne font pas comme s'ils sortent de l'extérieur, mais sont foncés à l'intérieur, mais également brillants. Surtout, ils ne sont pas couleur et opaques. Et la chair est nacrée, mais pas jaunâtre. Quand vous voyez la chair, elle ne veut pas être de couleur jaune. Quand ça commence à être jaune, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui se développe. Ses branchies sont toujours rouges et non noires. Si vous avez le poisson qui a des branchies noires, il y a déjà un problème. Ses nageoires et écailles sont fixées sur le poisson. Les écailles ne peuvent pas s'enlever d'eux-mêmes, ou soit les nageoires, mais également, il n'a pas de dème, ça ne peut pas gonfler. Mais également, quand vous pincez votre doigt, on ne peut pas voir sous forme des trous qui s'enfaissent et qui restent permanents. Voilà les bons poissons que nous devons consommer au niveau du ménage. Ces bons poissons-là, quand vous les voyez, vous faites la comparaison au marché sur le type de poisson qui est face à vous et vous prenez la décision de la consommer ou pas. Mais si vous consommez ces poissons-là, qui est corrosif, qui est contraire aux critères que je viens de donner, il est probable que vous puissiez avoir des maladies d'origine alimentaire. En dehors des maladies d'origine alimentaire que nous courons, si on n'a pas bien analysé ce cas, il y a maintenant les noyades que nous pouvons également vivre. Parce que déjà, il faut courir dans le lac chercher les poissons, sans aucun matériel de protection. Nous avons déjà un cas de noyade signalé. Et donc, les cas de noyade vont se multiplier. Voilà pourquoi nous appelons aux scientifiques à l'analyse et aux gouverneurs de province d'appuyer les dialogues communautaires avec les communautés pour qu'on arrive à analyser nous tous ensemble s'il faut continuer à consommer ou pas.
Monsieur Joseph Makundi, je rappelle que vous êtes le coordonnateur de la protection civile au Nord Kivu. Merci.
C'est moi plutôt qui vous remercie.
C'est par ici que nous mettons un point final à cette édition du journal parlé de la mi-journée, coordonnée par Élisée Chikota Chivueta, supervisée par Pelé Kipelabondo et mise en onde par Polydor Basunga. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la radio de la paix.